Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. On est en forme, on est plein d'énergie, même si c'est vendredi matin et qu'on vient de se réveiller. Comment ça va, Johan? Ça va, t'es en forme?
Ça va, ouais, ça va super bien. Je pète la forme. Il y a eu du Loki, il y a eu pour moi du Black Widow.
Chut. Puis... Aucune, oh, ah, pas non, même un mot, ne prononce pas le nom non, de non, cette non, héroïne. Non. Comme vous le savez. Je suis je fais beaucoup d'efforts pour ne pas du tout me spoiler les films Marvel avant que je les voie, et je regarde même pas les trailers, ou très peu. Donc, et moi je vais aller le voir tout à l'heure, quelques heures après l'enregistrement de cet épisode, donc je reste très prudent là.
Ouais, c'est la zone dangereuse là, où les différents journalistes, les différentes publications... commence à poster leur avis avec parfois des screenshots, avec parfois même des choses dans les titres.
Ouais, il faut
faire
super
évident, gaffe. Si on veut vraiment être à 100% ignorant, ça reste compliqué dans le monde d'Internet quand même.
C'est sûr. Et même si tu es sur Twitter, tu peux voir quelqu'un qui dit qui ne spoile pas énormément, mais moi, je suis carrément névrosé sur le truc, genre quelqu'un qui dit... dans Black Widow, c'est vraiment trop dark, hein. Et je me dis, ah mais merde, alors ça veut dire qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, et donc je suis très très pointilleux sur la chose. Mais aujourd'hui, on va peut-être du coup parler, ça va être bizarre, tu m'as proposé après qu'on couvre l'épisode de Loki, j'ai pas dit mon nom, je suis Patrick d'ailleurs, bonjour.
Salut, c'est Johan.
Après qu'on couvre l'épisode, oui mais j'ai dit ton nom et je crois.
Ah, c'est vrai, tu l'as dit, t'as dit mon nom, ouais.
Après qu'on ait couvert l'épisode de Loki, tu as suggéré qu'on parle de nos attentes pour Black Widow. Mais du coup, toi, tu l'as déjà vu.
Je me souviens de mes attentes avant de l'avoir vu.
D'accord, ok. Et puis, on enregistrera, vous aurez en début de semaine prochaine, a priori lundi, notre review de Black Widow, enfin nos discussions sur Black Widow, qui arrive donc dans quelques jours, donc un petit épisode bonus. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est l'épisode de Loki, nos attentes sur Black Widow, et puis... Peut-être, je ne sais pas si on peut parler de ce qu'on attend pour 2021 sur les séries Marvel, ou alors est-ce qu'on attend la fin de Loki, peut-être parce qu'il y a eu
On peut faire ça après le dernier épisode de Loki.
Ouais, parce qu'il y a eu un trailer pour la série animée What If qui m'a beaucoup surpris par l'intérêt et l'attrait que ça a provoqué chez moi. Je l'ai regardé en diagonale, et bon, c'est un truc animé, donc c'est peut-être moins important. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Mais peut-être qu'on en parlera après la fin de Loki, du coup. Mais alors, on commence avec l'épisode 5 de la série Loki, saison 1. Sans autre forme de procès, qu'en as-tu pensé, Johan?
Alors déjà, j'ai trouvé ça globalement bien. J'ai passé un très bon moment devant cet épisode, mais, et c'est là où, c'est un peu un mais récurrent là maintenant pour les séries Marvel, c'est que je trouve qu'on n'arrive jamais à revenir au niveau, je trouve, des premiers épisodes. Il y a toujours des petites choses qui vont pas pour moi, et j'ai l'impression qu'ils rallongent quand même pas mal finalement les péripéties pour que ça tienne dans le format.
Ouais, pour qu'il y ait au moins 6 épisodes.
Ouais, voilà. Et je l'ai revu hier soir l'épisode avec ma femme, et c'est vrai qu'en le revoyant, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de choses que je trouvais vraiment pas terrible. Et toi, de ton côté?
Écoute, je suis un petit peu dans la même situation. Je le trouve sympa. Je peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment, hein, c'était sympathique, et puis j'apprécie les aspects un petit peu pas vraiment fan service, mais enfin, les différents Loki, leurs interactions, la démonstration de puissance de classique Loki, ce genre de choses. Mais je suis un petit peu dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire que c'est pas que c'est du remplissage, enfin oui, je trouve qu'il y a un petit peu de remplissage peut-être, mais c'est surtout qu'ils apportent pas le même soin aux séries qu'ils apportent aux films. Et même si dans les films, évidemment, il y a des moments où il faut, comme on dit en français, suspendre son incrédulité, suspend your disbelief, il y a des trucs qui ne sont pas logiques ou qui ne se passeraient peut-être pas comme ça ou qui sont des raccourcis, quand tu les revois, les films, il y a quand même un soin qui est apporté aux détails et aux interactions et aux combats et aux... le truc tient debout et il y a des petits moments qui te marquent, des petits moments où des phrases, certaines phrases, tu les retiens pendant des années, ça veut dire quelque chose, ça t'impacte, au-delà de l'aspect pop fun de films de super-héros, il y a des choses qui te touchent. Et là, dans Loki, et dans, à vrai dire, un petit peu toutes les séries, peut-être que WandaVision était la moins touchée par ces problèmes-là, encore que, je trouve qu'ils sont plus vraiment en mode série télé, ce qui, bon, ce qu'on pourrait, ce qu'on peut comprendre, hein, évidemment, mais ils sont plus en mode série télé. Et du coup, il y a des trucs où bah, c'est un petit peu grossier, on passe rapidement dessus. L'épisode, pour parler de choses spécifiques, c'est vraiment oh, on arrive dans ce monde bizarre, et puis il y a ce monstre de fumée qui a son origine dans les comics, ok, mais il y a le monstre de fumée, ok, vite il faut fuir, et puis oh, il y a un autre Loki qui arrive, et oh, Sylvie se prune, se sélague elle-même. Et elle rencontre Mobius qui était là en voiture. Ok, mais pourquoi, d'où, comment? Et puis, ils se rencontrent aussi Loki parce qu'ils voulaient eux aussi aller voir le monstre de fumée. Et puis, Sylvie a dit, je vais l'enchanter. Mais non, mais tu peux pas, mais si, il faut le toucher. Mais si, on est très très fort, ok, on va l'enchanter. Et puis hop, c'est enchanté. Et c'est un peu... mais en fait, vous avez juste écrit des trucs au hasard, les uns à la suite des autres. Et puis au final, ça fait 40 minutes d'épisode, quoi. Alors, les trucs... au hasard, les uns à la suite des autres, ils sont sympas. Je les trouvais plus sympas que l'épisode précédent, par exemple. Non, pas l'épisode précédent. Je sais même plus, je m'y perds.
Bah, le fameux 3 qu'on avait trouvé un petit peu...
Voilà, c'est ça, l'épisode 3 qu'on avait trouvé un petit peu faible. Celui-là est peut-être plus sympa parce que ces moments sont... les interactions entre les différents Loki sont très cool. Le fait que Alligator Loki, ils y vont à fond. Et c'est vraiment juste un Alligator Loki. Et voilà, et basta. Et ils acceptent le truc. Et c'est genre, bon, ok, d'accord. L'arrivée de Vote Loki était très sympa. Enfin, il y a des moments cool. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un petit peu branlant quand même. Ça tient pas super bien debout et c'est je sais pas, paresseux, c'est peut-être un petit peu dur comme caractérisation, mais c'est celle qui me vient à l'esprit, quoi. Comme tu le disais, les deux premiers épisodes, c'était vraiment magistral de soins et de direction artistique et d'ambiance et même d'écriture, je dirais. Je me souviens qu'on disait sur le premier épisode, l'étude de personnalité de Loki dans l'épisode 1, elle est vraiment très bien écrite, quoi. Et là, bah, c'est « Ah, il se passe ça. Ah, ok, d'accord. Ah, il se passe ça. Bon, bah, ok, très bien. »
Ouais, et puis c'est vrai que c'est, bah, du coup, effectivement, tout s'enchaîne, hein, bah, du coup, sans vraiment... de gros connecteurs, donc le fait qu'on comprenne qu'il faille enchanter Alayat, c'est surtout parce qu'elle a touché, je crois, en fuyant, elle a touché à un bout de la fumée et elle a eu du coup un flash, machin. Pourquoi pas, à vrai dire, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que on alterne entre un univers quand même assez crédible. Enfin, je dis crédible, on va mettre des guillemets, hein, mais pour je veux dire, du MCU qui se veut, hein, il se veut, on va dire, crédible. C'est un peu l'objectif de cette série de films, hein, c'est d'utiliser justement le comics dans un univers qu'on pourrait croire, qui paraît un peu réel, etc. Il y a une espèce de réalisme, en fait, dans l'intention.
Ouais, un pseudo-réalisme. En anglais, on dit « verisimilitude ». Je sais pas comment, si ça a une traduction française, mais c'est pas de la réalité, mais c'est
ça ressemble à de la réalité.
Ça ressemble à voilà. Bon, on va dire de la pseudo-réalité.
Et du coup, c'est ce qui me gêne, c'est que dans les interactions entre les Loki, notamment quand ils sont attaqués par l'autre groupe de Loki, c'est qu'on bascule dans du cartoon quasiment, en fait. Tu sais, tout d'un coup, tout le monde crie, on arrache un bras, on court partout, tu vois. Moi, ce moment-là, je l'ai vraiment pas trouvé bien, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'était plus vraiment là pour la blague, pour on va mettre plein de Loki, ils vont tous se trahir les uns les autres à la suite, ça va être rigolo. Mais
il n'y a pas de cohérence avec le reste de l'épisode.
Ouais, voilà,
quoi.
C'est ça. C'est pas cohérent. Et puis en plus, il y a toute cette notion de ce Loki-là a enfin réussi à sortir de sa condition et à ne plus arrêter de trahir les autres, etc. Mais le nôtre de Loki, initialement, il a jamais été, sur de la trahison gratuite pour trahir, tu sais, juste parce qu'il doit trahir, quoi. Pour moi, ça rate un peu la caractérisation d'un Loki, justement.
Ouais.
Et que ça sert pas le propos, c'est juste une blague.
C'est une caricature de Loki, en fait.
C'est clairement pour amuser la galerie, quoi, tu vois. Et pareil d'ailleurs pour cet univers-là, hein, donc qui est le bout du monde où finalement tout ce qui est toutes les timelines qui sont supprimées débarquent à cet endroit-là. Donc on a vu, il y a une pyramide, il y a plein de choses, hein, il y a plein de références soit aux comics, soit au MCU. Donc
soit à l'histoire,
un bout de statue du Living Tribunal dans les débris, genre de choses-là.
C'est marrant, c'est marrant.
Autant ça, moi j'aime bien parce que du coup, on a vraiment cette sensation, pour le coup, je trouve qu'on a vraiment cette sensation d'être au bout de quelque chose, quoi, avec tout qui se mélange temporellement et spatialement, donc des trucs de partout, de toutes les époques qui arrivent en débris à ce moment-là.
C'est quand même, tout est sur Terre et tout a à voir avec la Terre, hein, évidemment, mais bon.
Enfin, par contre, que nos protagonistes arrivent tous au même endroit, alors que ça n'a pas l'air d'être spécialement le cas, ou tu ne comprends pas trop les règles, parce qu'il y en a une qui arrive dans un véhicule, notre Loki, Sylvie, elle se réveille dans une camionnette, ou je ne sais pas quoi, Loki se retrouve à côté d'autres Loki quand il arrive, enfin tu vois, ça manque, on comprend pas bien comment ça marche, cette histoire de téléportation à cet endroit là, et surtout il y a que des Loki, quoi. Alors je sais que l'excuse entre guillemets c'est de dire que on est des survivants donc on survit, quoi. Mais j'aurais aimé peupler un peu cet endroit là de d'autres personnages, quoi. Ça aurait pu être rigolé d'avoir un deuxième Mobius par exemple, enfin tu vois, je trouvais que ça manquait de soin, en fait. C'est exactement ce qu'on disait. C'est que autant la TVA au tout début de la série, elle est vraiment traitée avec un très très grand soin, autant les lieux distants de la TVA, c'est pas le travail n'est pas fini, quoi. Il manque justement du polish là-dessus, sur rendre cet univers plutôt intéressant. Et je trouve que j'ai pas super envie de revenir à cet endroit-là après leur départ. Les Loki, à part le classique Loki qui finalement quand même est assez, assez sympa, les autres, je m'en fous un peu, quoi. Pas trop.
Le classique de la blague, Loki et Alligator Loki aussi, bien sûr.
D'ailleurs, Alligator Loki, je l'ai remarqué au deuxième visionnage, c'est qu'il y a un super jeu de réalisation avec lui. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait une blague ou se met à rigoler fort, il y a toujours un plan, un plan de type contrechamp sur le crocodile. Comme s'il était aussi en train de se marrer, alors que pas du tout, c'est juste un crocodile. Et je trouve que cette blague de réalisation, elle fonctionne super bien. Ça m'a vraiment refait marrer, quoi, quand je l'ai revue.
Je suis d'accord. C'est en fait, plus on en parle, plus je vais. C'est l'inverse de l'épisode 1. Où tu disais, tu sais, moi je disais, ah ouais, il est sympa quand même. Et toi, tu disais, ah non, j'ai adoré, c'était très bien. Et puis finalement, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, non, allez, je vais pas bouder mon plaisir, c'est vrai que c'était super, j'ai adoré. Et là, je me dis, ah ouais, c'était sympa, c'était pas trop mal. Et plus on en parle, plus je me dis, ouais, c'était quand même assez moyen, assez paresseux. Et le truc dont tu parles avec Sylvie qui touche un tentacule de Aliot. et qui a ce flash au début, même ça, tu comprends pas bien, c'est pas bien fait. Tu te demandes ce qui s'est passé. T'as vu qu'elle a eu un flash.
Ouais, ouais.
Mais
pff, bah, j'ai compris bien après. J'ai compris quand, bah, ouais, quand elle l'explique à la fin.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et du coup, ça fait artificiel, ça fait genre, ah, bon, ok, comment on va faire pour qu'ils s'en sortent? Ils vont pouvoir toucher Aliot et l'enchanter. Et ils ont établi des règles à la base qui sont, ah, il faut que j'attrape leur esprit et s'ils sont très compliqués, il faut que je mette un setting de leur vie passée et machin. Et tu disais, ok, bon, alors c'est ça les règles, comment ils vont faire? Ils auraient pu l'appliquer, je sais pas, à Aliot d'une manière ou d'une autre, ou... mais le fait qu'ils l'appliquent pas, ça fait que, bon, ok, c'est un esprit simple, et donc on n'a pas besoin, je peux juste... Mais en même temps, c'est très difficile, parce que c'est un monstre de fumée, enfin... Je dis pas que c'est pas possible, ils peuvent faire tout dans Marvel, ils ont prouvé que n'importe quoi, ils pouvaient le rendre pseudo-réaliste, justement. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui prennent Rocket Raccoon comme référence. Ils avaient fait des choses incroyables et ils les avaient rendues crédibles, enfin pas crédibles ou pas croyables, pas juste incroyables, mais pas croyables avant. Et ils les avaient rendues crédibles et tout le monde se disait, ah ouais, ok, ça c'est pas mal foutu, ça c'est pas mal foutu. Mais quand Guardians of the Galaxy est arrivé et que c'était tellement acceptable comme idée a priori complètement ridicule, je crois que c'est là que le monde a accepté que, oh bah ok, ils peuvent nous faire accepter n'importe quoi parce qu'ils le font bien. Je prends souvent l'exemple aussi de la cape de Vision. J'en ai sûrement déjà parlé dans cette série, enfin dans ce podcast d'ailleurs. Comment nous faire accepter que cet androïde qui sort de nulle part décide qu'il veut une cape? Eh ben, le simple fait de regarder Thor et de faire apparaître la cape à ce moment, ça te le fait accepter. C'est un petit truc, mais il faut qu'on te donne ce petit truc auquel te raccrocher pour l'accepter. Et ce qui manque dans les séries, et dans celle-ci en particulier, après deux épisodes vraiment réussis, c'est ça. C'est ces petits trucs auxquels te raccrocher pour te dire « Ok, ça fonctionne ». Et ce qui se passe là dans cette épisode, et c'était le cas dans l'épisode sur la Mantis aussi, ça a l'air d'être juste des pérégrinations un petit peu, comme je le disais, aléatoires de ces héros, qui n'a pas vraiment de raison au final, qui n'a pas de cause, et c'est juste, bon, bah, on va les envoyer faire des trucs comme ça, et on va essayer de saupoudrer tout ça de trucs marrants qui vont parler un petit peu aux fans. Donc, le fait de pouvoir enchanter Aliot, c'est un exemple de ça, je trouve. C'est qu'ils n'ont pas trouvé la petite accroche qui fait qu'on se dit « Ah bah oui, évidemment, c'est comme ça que ça va fonctionner et c'est logique que ça fonctionne comme ça. » C'est juste « Oh, on a décidé qu'on va se sortir du gros monstre de fumée cool qu'on a décidé de designer parce que ça serait cool et qu'il y a une référence dans les comics. Bah, » on va s'en sortir avec « Oh, on aurait dit que Enchantress, elle pouvait l'enchanter. » Ok, c'est un peu... Tu sais, excuse-moi, je parle beaucoup, mais...
Je t'écoute.
Mon fils a 3 ans et demi, et c'est l'âge où il commence à comprendre les règles et à en faire. Et donc, il fait des règles sur plein de trucs tout le temps. Et il les change tout le temps, et il s'amuse intellectuellement à, genre, faire les règles et changer les règles. Et il y a plein de trucs, mais par exemple, on va à un café pas loin où il y a un grand jeu d'échecs, tu sais, avec des grosses pièces en gros plastique que tu peux déplacer, genre, à taille humaine, entre guillemets. Et on va jouer aux échecs, vous entendez les guillemets, avec mon fils. Et donc, les règles des échecs avec lui, ça change tout le temps. C'est genre... Alors là, on aurait dit que cette pièce, il avance et celui-là, il peut le prendre comme ça. Et non, alors attends papa, toi tu peux pas, toi tu dois rester ici. Et puis là, on aurait dit que quand tu prends cette pièce, t'es obligé de bouger cette pièce comme ça. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça. Ça ressemble un peu à ça en fait. C'est alors on aurait dit qu'il y a un gros monstre de fumée et qu'il est trop trop méchant et puis là on aurait dit qu'il y a plusieurs Loki dont un Loki alligator et puis là Sylvie elle arrive et on aurait dit que Mobius il arrive avec une voiture et puis quand il rencontre le monstre de fumée on aurait dit que Sylvie elle peut l'enchanter mais elle a besoin de Loki aussi pour l'enchanter parce qu'il est trop trop fort. Voilà. C'est un peu le résumé du truc.
Ouais, c'est les
tu
enfants
vois?
qui racontent des histoires, quoi. Ouais,
C'est ça.
non, mais il y a un peu de ça, effectivement. Et en fait, ça, pour moi, ça a démarré un petit peu à l'épisode d'avant, ça. Alors, c'était un peu moins gênant, mais c'est vrai que cet épisode 3 nous avait laissé dans une situation désespérée où Lucky et Sylvie allaient mourir. Et puis tout à coup, voilà, on a qu'à dire que comme ils s'aiment tellement fort, et ça fait un Nexus Event plus gros que l'Apocalypse. Et du coup, finalement, même avec l'Apocalypse, ils arrivent à le détecter. Tu vois, enfin, c'est.
Ouais, je trouve
pour
que
moi,
ça tient un peu plus debout encore que cette histoire d'enchantement d'Aliot. Hein.
Ouais, mais
c'est
aussi
y
une
y a un aspect
accumulation, c'est-à-dire
poétique.
que.
Ouais, je suis d'accord. Mais pour l'amour entre les deux Loki, il y a un aspect poétique, tu sais, l'amour plus fort que l'apocalypse, genre c'est « Oh mon Dieu, mais c'est tellement incroyable et improbable comme événement que ça... » Je suis d'accord que c'est facile, mais au moins, il y a quelque chose. Là, pour l'enchantement d'Aliot, il n'y a rien, c'est juste « Oh, on aurait dit que... » Tu vois?
Et il y a aussi, du coup, ça on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une petite partie parallèle à la TVA avec Ravonna Renslayer, là, qui du coup, on comprend que finalement, elle a pas l'air d'être tant au courant que ça. Enfin, j'ai toujours du mal à savoir ce qu'elle sait, en fait, parce que elle part un peu. On a l'impression qu'elle veut savoir, en fait, du coup, qui est derrière les Timekeepers. Et qu'elle ne sait pas non plus, quoi. Donc, ça, je suis assez intrigué de voir où ça va. Et du coup, là, on peut commencer aussi à se poser la question. C'est comment ça finit, quoi. Il y a qui est-ce qui est dans ce fameux château là, vers lequel ils vont. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait.
Il reste
quel
un
est cet
épisode,
endroit,
donc on va entre guillemets savoir là.
Parce que le fameux monstre, l'Ayot, du coup, je suis allé voir un petit peu. C'est apparemment, enfin, dans alors, je pense pas que ça soit comme dans les comics. Hein, je le répète encore parce que on connaît maintenant comment le MCU fonctionne. Il a une fonction narrative, ce nuage, c'est-à-dire qu'il sert d'obstacle. Il sert probablement que pour l'épisode. Il faut un obstacle pour l'épisode. On passe l'épisode à savoir comment est-ce qu'on va le passer, puis on surmonte l'obstacle. Voilà, c'est un peu classique. Je pense pas qu'il dépasse cette fonction-là, mais effectivement, c'est une référence de plus à l'univers Kang, justement, parce que du coup, c'est une entité qui a conquéri aussi une grande partie de la timeline, donc ce Eliot-là, et qui est un empire concurrent de celui de Kang. Donc, tu vois, on est encore, en fait, dans cet univers-là qui ramène plus ou moins vers ce personnage-là. Donc, est-ce que c'est lui qui est dans le château? Il y a quelque chose en moi qui me fait toujours penser que c'est possiblement toujours un autre Loki qui est derrière tout ça. Je trouverais que ça serait, enfin, je vois vraiment comme un truc possible, quoi. C'est-à-dire, la série s'appelle Loki, il y a plein de Loki variants, etc. J'imagine facilement la mise en place d'un Loki qui a finalement déjà réussi à renverser la TVA. Ou à la former, enfin quelque chose de cet ordre-là. Donc j'ai un peu hâte quand même d'avoir le fin mot là-dessus. J'espère qu'on l'aura parce que on peut le dire, hein, on sait qu'il y a des plans pour Loki pour la suite. Je crois qu'il y a une autre série, je crois qu'il y a une autre saison. Alors tu vois, il y a une autre saison de Loki, elle peut prendre tellement de formes différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'il n'y a plus Tom Hiddleston, mais il n'y a que, j'ai oublié son nom à l'actrice, mais il n'y a que Sylvie. Enfin, tu vois, ça ne nous dit pas qui survit, qui ne survit pas, qu'est-ce qui se passe ou pas. Mais comme il y a une suite, voilà, je me dis qu'il y a le risque qu'on nous laisse quelque chose en suspens. Et ça, j'aimerais pas trop. J'aimais bien finalement le format des séries jusque-là, où c'était quand même une histoire quand même contenue et qui laisse. Voilà, qui ne propose pas forcément de suite, tu sais, on pourrait s'arrêter là pour WandaVision, pour Captain America et Winter Soldier, et j'espère que ça sera le cas ici. Je suis pas fan, moi, des séries à rallonge sur les saisons qui durent des années en général, donc j'espère que
ça
sera bien
contenu. S'il y a une conclusion satisfaisante à l'histoire la saison, on peut tout à fait même ouvrir sur un truc après, tu vois. Mais c'est vrai que je crains un petit peu la fin en nœud de boudin. Parce que le truc, c'est que Kang, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, il a été casté, on le sait, il est dans Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Et du coup, ça me paraît bizarre qu'ils l'introduisent dans la série Loki de manière substantielle. Alors oui, on a eu Photon qui a été introduit dans WandaVision, mais c'est un personnage c'est un personnage annexe, tu vois, c'est pas un personnage majeur, même si elle sera dans The Marvels. C'est un personnage qui est pas je sais pas, c'est pas aussi important que le méchant d'un film. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'ils l'introduisent, ou peut-être qu'ils peuvent, je sais pas, en y réfléchissant, peut-être que comme Photon, ils peuvent l'introduire, et puis ils trouveront un moyen dans le film de le présenter aux personnes qui n'ont pas vu la série de manière satisfaisante. Mais je peux imaginer que, tu vois, on va avoir Ravonna qui y va aussi, et puis tout le monde se retrouve dans la grande salle du trône, du château, et puis on voit juste le masque de Kang ou une vidéo qui dit « Ah ah ah, je suis Kang, je suis le maître de toutes les timelines, et vous me devez allégeance !» Et puis là, ils se battent entre eux, et puis il y en a un qui s'enfuit, tu vois. Je sais pas.
Ouais, effectivement, si Kang est dans la série, je ne le vois pas y apparaître autrement qu'en mention, en fait. J'ai du mal à imaginer l'acteur, en fait, dans cette série-là. On sent qu'on en a entendu un peu parler ou quoi, donc... Même si je ne suis pas forcément de près les leaks de photos de tournage et compagnie, mais c'est, en général, quand tu as un gros acteur qui apparaît dans une série, on est plus ou moins au courant. Donc oui, j'imagine pas qu'il soit plus que cité, c'est peut-être son chez lui et tout, mais ce que je voulais dire par suspension, c'est que typiquement pour moi, la fin de l'épisode, c'était quel épisode où c'est l'épisode d'avant ? Attends, je sais déjà plus où ils arrivent, oui c'est l'épisode d'avant, où ils arrivent dans la salle des Timekeepers et on se rend compte que c'est des robots, tu vois, ça aurait pu être une fin de saison, tu vois, une autre série, quoi. C'est-à-dire que... Ils arrivent, ils se libèrent de la TVA, donc on va dire l'arc est terminé, mais on découvre que les méchants, en fait, on ne sait pas qui c'est, tu vois.
Et ça, mystère, ça satisferait pas, tu veux dire.
Fin. Et ouais, ça moi, ça me gênerait un peu. Bon, c'est pas dramatique, hein, de toute façon, mais voilà, j'aime bien en général quand une narration est quand même bien contenue et que s'il y a un mystère qui persiste, que c'est plutôt un mystère supplémentaire plutôt qu'un mystère qu'on est en train de se poser là tout de suite la question qui perdure, quoi.
Disons que dans l'ensemble, on a eu trois bons épisodes, dont les deux premiers qui nous ont vraiment beaucoup plu. Et là, maintenant, ça fait deux qui sont au minimum moyens, voire très moyens. Tout repose sur le dernier. Est-ce que sur ce dernier, ils vont réussir ? Si le dernier est bon, si le dernier est satisfaisant, sympa, ou au final, la série sera cool, avec deux épisodes un petit peu de baisse de rythme. Si le dernier est dans le ton de celui-là, ça sera quand même une belle déception. Parce qu'au final, WandaVision, je crois qu'on a tous les deux beaucoup aimé malgré les petites faiblesses. Je dirais que le Falcon and Winter Soldier ou Captain America and Winter Soldier, on a quand même eu des moments assez forts, même si là encore, il y avait des moments un petit peu plus faibles. Il y avait des trucs qui ont vraiment, vraiment fonctionné. Là, autant les deux premiers épisodes étaient très forts et faisaient ma série préférée, autant depuis, elle pourrait retomber à ma série, la série que j'aime le moins parmi les trois qu'on a vues, quoi. Si ça se termine.
Je suis aussi dans cet état d'esprit, ouais, complètement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais persuadé, après les deux épisodes, je fais waouh, mais c'est vraiment ma série préférée, quoi. Sans même me poser trop la question. Et puis y a eu le 3 et puis même le 4 que je trouvais super bien, mais
c'était sympa, mais c'était pas
voilà, et même celui-là que je trouve toujours sympa, mais voilà, donc ça, pour moi le niveau quand même bien baissé au point où effectivement la question se poserait de savoir si je préfère pas Captain America, finalement, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Donc, on peut... Moi, je pense que je suis même... peu importe l'épisode final, je suis déjà quand même déçu par rapport à ce que... Alors, faut remettre les choses, hein. Par rapport aux deux premiers épisodes. Cela dit, je trouve que la série est quand même mieux que ce que j'imaginais initialement, quoi.
Une série Loki.
Voilà. En fait, c'est une série qui a déçu mes attentes. C'est-à-dire que moi, j'attendais vraiment un truc de voyage, tu sais, un épisode, un Loki différent, un endroit différent. Donc, c'était pas du tout ça. Donc, les attentes que je pouvais avoir en amont n'ont aucun sens. Mais effectivement, ça m'a vendu quelque chose, notamment le personnage de Mobius, que je trouve vraiment extraordinaire. Même Sylvie, qu'au début j'étais pas du tout convaincu, là je trouve que dans cet épisode-là d'ailleurs, elle s'affirme un peu plus. Alors je pense que ça tient de l'écriture, hein, c'est pas de la faute de l'actrice, mais je trouve que là elle s'affirme vachement plus, elle est beaucoup plus actrice, motrice, et elle est prête à récupérer justement le flambeau de personnage principal en fait.
Ouais.
Donc je sais pas ce qu'il en sera, hein, mais elle est complètement capable pour moi de devenir un personnage principal d'une série. Je la trouve assez cool, assez badass. Donc j'espère qu'on continuera à avoir ce personnage d'une manière ou d'une autre, parce que ouais, globalement je trouve que c'est un personnage
Ouais.
assez cool finalement.
Tu sais, quand tu dis ça, je me dis que si au final on termine avec Sylvie, Loki, Kid Loki et Ali Loki, genre en une équipe de Loki, et que ça fait, je sais pas, soit un film, soit la saison 2, c'est Loki's, tu vois, c'est ça,
De
genre à la Guardians of the Galaxy, moi je serais prêt à suivre les aventures d'un groupe de Loki. Et ça pourrait être un truc marrant, mais alors qu'a priori, j'étais pas du tout convaincu que ça serait le cas, mais ouais, bon. Bon, bah du coup, c'est un peu, on est, je sais pas, on va dire qu'on attend. On attend
Ouais.
le prochain épisode pour juger vraiment. Et ça va pas beaucoup tarder, hein. Le prochain, c'est évidemment la semaine prochaine. Donc, on verra à ce moment. Bah écoute, donc c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, des détails, des trucs de fan service? Tu parlais du Living Tribunal, dont on voit un morceau de la tête à un moment. Il y a quelques petits détails comme ça, des choses que tu veux évoquer?
Ah, il y a le Minitor là dans le tu
Oui, le
sais qui est dans une
frog.
espèce de bocal là. Ah, ça, j'essaie de voir si c'était une grenouille ou pas,
Oui,
mais
c'est une grenouille, c'est un thor
ah, c'est une
grenouille qui est
grenouille.
coincé dans une. Ouais,
D'accord, ok. J'ai l'impression que c'était juste un mini humain en fait. Je croyais
non,
que
c'est
c'était
une grenouille.
mais ok, d'accord. Bah, tu vois, typiquement ça, c'est le genre de clin d'œil que j'aime pas trop, parce que je comprends pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Enfin, c'est vraiment pour le montrer quoi. C'était
Ouais.
vraiment. Non, mais je crois qu'on a fait le tour, hein, de ce qu'il y avait à dire. On attend de savoir ce qui s'est passé. Finalement, les mystères sont les mêmes, hein,
Tout à
que
fait, ouais.
ceux de l'épisode d'avant. Donc,
Bon, bah écoute, réponse dans une petite semaine, un petit peu moins. Très bien. Et du coup, bah, tu voulais qu'on parle de nos attentes pour
ouais.
Black Widow. Je vais peut-être commencer parce que, comme toi, tu l'as
Vas-y.
vu, bah.
Ouais. Vas-y, vas-y.
pour ne pas souiller, mais évidemment, aucun spoiler, hein. On l'a compris, on ne spoile pas du tout,
Ouais,
c'est
ouais,
juste
ouais.
nos attentes. J'ai vu enfin, je sais quel personnage il y a et j'ai dû voir 30 secondes d'un trailer, donc je sais un petit peu les personnages qu'il y a, et je ne vais pas en parler, mais d'une manière générale, je dois dire que moi, je n'ai aucune attente pour cette série. J'ai des interrogations. Pas cette série, ce film, pardon, mais je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas du tout. Je sais pas. Alors, on sait que c'est. Il y a une partie, au moins, qui est dans l'époque. Enfin, comment dire. Avant la fin de Endgame. Sans être plus précis, on sait qu'il y a des trucs que c'est avant la fin de Endgame. Je sais pas si on a une réponse à ce qui se passe pour Black Widow. Après, enfin pendant Endgame, moi j'aimerais bien, à vrai dire, voilà, s'il y a une attente, j'aimerais que on nous ouvre au moins en post-générique un truc sur la fin de Black Widow qui ne soit pas la fin finalement, parce que c'est un peu dommage qu'elle soit morte ou qu'elle ait disparu sur Vormir et qu'il y ait un truc avec la pierre d'âme qui fasse un truc avec comment ça s'appelle le monde de l'âme, je sais plus. Mais au-delà de ça, je crains vraiment que ça soit un film plus dans la veine des Ant-Man qui sont généralement un petit peu moyens avec des aventures avec des méchants un petit peu oubliables et puis un truc un petit peu rigolo mais bon sans plus. Mais ce que j'aimerais évidemment, c'est qu'on soit dans la veine des Captain America avec une vraie aventure d'espion et une écriture intéressante avec des enjeux politiques et ou sociétaux intéressants. Et puis, ou alors au moins une affaire d'espion, parce que Natasha Romanoff, c'est l'espion ultime. Qui peut se sortir de n'importe quelle situation, qui peut mais j'y crois pas trop en fait. Je crains l'aspect beaucoup plus Ant-Man et voilà. Et ce que je crains le plus en fait, c'est qu'ils introduisent d'autres agents de, je sais plus comment s'appelle, la Red Room, enfin tu vois les autres Black Widow, qui est une Blue Widow et une Red Widow et je sais pas quoi, et que ça soit genre ah bon, on a présenté Red Widow, je sais plus comment, enfin il y a d'autres agents dans les comics qui sont genre les qui deviennent les Black Widow quand Natasha Romanoff n'est plus Black Widow, et qui fasse genre « Ah, on a une autre Black Widow qui est là pour prendre la suite de Black Widow parce que Black Widow, elle est morte. Donc, au moins, on en a encore une. Et elle coûte quand même moins cher que... que merde, putain, j'ai son nom qui m'échappe. L'actrice.
Scarlett Johansson.
Voilà, que Johansson. Et donc, ça va, on va pouvoir la payer un peu moins cher. Tu vois, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc... ça, c'est juste les attentes. Et donc, encore une fois, hein, sans même pas donner un vague indice d'une référence à rien de ce que tu as vu.
Ouais, bien sûr. Forcément, là, je vais jouer, je vais faire un petit jeu intellectuel, hein, parce que alors, j'ai vu le film. Par contre, effectivement, j'ai dû réfléchir à ce que j'allais dire en amont pour justement. Faire comme si j'allais donner mes attentes. Hein. Je les avais formulées déjà avant de mon côté, donc je sais exactement quoi dire sans être influencé par mon visionnage. Ce que je pense, alors je vais parler peut-être au présent, peut-être au passé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je donne vraiment mon avis avant d'avoir vu le film. Quoi. Donc, y a aucun problème, vous n'aurez pas mon avis dans ce que je vais dire. J'étais très, très dubitatif sur ce film. J'ai l'impression qu'il n'est pas fait pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que pour moi, ce personnage de Black Widow, c'est un des pire traitement parmi les héros. C'est vraiment pour moi le héros le plus maltraité du MCU. Je trouve même parfois assez honteux à différents niveaux dans la série complète, quoi.
De quelle manière, pourquoi tu es aussi
soit elle est effectivement montrée comme
sexualisée, tu veux dire,
notamment super sexualisée par Stark. Parfois objectifié, et puis ses relations, je trouvais que ses relations qu'elle a pu avoir, donc hormis celles qu'elle peut avoir avec Barton, où effectivement il y a cette amitié, et je trouve que ça c'est la partie qui fonctionne bien du personnage, mais autant tout ce qui est de sa relation avec Banner, et puis sa place en fait, dire dans les intrigues. Jusqu'à Endgame en fait, que je trouve vraiment vraiment dommage, quoi. Jusqu'à même son sacrifice, qui peut être un petit peu contestable l'argumentation du fait pour lequel elle se sacrifie.
Ouais, donc, on en parlait avec ma femme. Je vais juste interrompre un tout petit instant, puisqu'on parle de cette histoire de traitement de la femme héroïne du MCU. Ma femme était très remontée sur ça et sur le fait qu'il l'ait tuée. Parce que autant il y a cette idée que c'est son moment héroïque, son sacrifice, et que c'est le truc super héroïque qu'elle fait. Bon, au-delà du fait également que une fois qu'elle est morte, il y a Hulk qui lance un banc dans un lac et puis après on oublie. Ce qui, il y a d'autres enjeux. Mais elle était très remontée sur le fait qu'il l'ait tuée, parce que c'est là seule femme héroïne de l'équipe d'origine, la seule qui avait vraiment sa place, et ils se sont pas mis à mettre, ils ont attendu des années et des années avant de s'intéresser à ce problème-là, Et même avec Captain Marvel, qu'on a bien aimé, ma femme et moi, il est arrivé après Wonder Woman, qui avait déjà ouvert la porte et qu'il a mieux fait que Captain Marvel. Mais bon, même si elle aime beaucoup Captain Marvel, ma femme et moi aussi. Mais donc, ce traitement de Black Widow et sa mort ont particulièrement frustré ma femme, moi un petit peu moins, mais pour ces raisons-là aussi. Donc, ça, il y a clairement un sentiment qui va dans ce sens-là, quoi.
Et du coup, ce film, alors je sais que ce film, il est en projet depuis très très longtemps, et donc forcément, comme ça a trait, ça n'a pas aidé les choses. Mais voilà, je trouve qu'il arrive trop tard, qu'il arrive. Enfin, j'ai l'impression que qu'il n'a pas été fait pour des bonnes raisons, quoi. J'ai du mal à voir ce qu'il va apporter à ce moment du MCU, quoi que ce soit dans le MCU, puisqu'on va suivre un personnage qui n'est plus, quoi.
C'est mort, ouais.
Donc voilà, donc
tu veux dire,
très très dubitatif.
Il arrive pas au bon moment parce qu'ils auraient dû faire un Black Widow quand ils construisaient l'équipe des Avengers.
Ah, bien sûr.
Et que
bien sûr.
Oui, c'est ça, d'accord.
Bien sûr. Ou même à dire un petit peu après, quoi, mais phase 2, quoi, tu vois.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
À la place, on a eu Thor 2, on a eu Iron Man 2 et 3. Enfin, tu vois, c'est dommage, quoi. Alors, ouais, effectivement, d'un point de vue retour financier, on comprend bien ce qui s'est passé dans la tête de Marvel. Mais voilà, je trouve ça un peu honteux. Et effectivement, comme tu le dis, la mort et la manière dont elle est morte vraiment, tu vois, enfin. Il n'y a pas eu d'acte particulier, quoi, si ce n'est le sacrifice. En plus, il est question d'enfants dans la discussion. Tu vois, ça, c'est des thématiques qu'on a tendance à ramener facilement dès qu'il s'agit d'une femme, quoi. Donc, c'est,
ouais, parce
moi,
que
ça
tu veux
m'a...
dire, parce qu'ils disent « Ah oui, mais toi, tu as des enfants, moi, je
ouais,
n'en ai
voilà,
pas. »
Ça. Ça renvoie encore au fait qu'il y a eu cette scène avec Hulk où elle s'estime un peu monstrueuse et que notamment le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants, etc. Tu vois. C'est...
Ouais,
on ramène
cette
encore
scène
un peu.
Cette scène a été, je
a
pense,
été
mal très
comprise.
Mal interprétée.
Non, je suis. Alors, je sais pas si elle a été mal interprétée, mais je la trouve maladroite, quoi qu'il arrive.
Maladroite, mais elle dit pas qu'elle est monstrueuse parce qu'elle a été stérilisée.
Non, bien sûr. Mais
on est d'accord,
en tout cas, voilà. En tout cas, c'est un personnage qui s'aime pas et on n'a pas l'impression que le MCU l'aime beaucoup non plus, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça. Pour autant, je sais que c'est un personnage super populaire. Moi, c'est un personnage que j'aimais bien quand j'étais pas trop versé dans les comics. J'ai jamais lu quoi que ce soit de Black Widow en comics, etc. Mais du coup, c'était quand même un personnage. Voilà, j'ai passé un bout de temps de ma vie entre guillemets avec elle, avec tout le MCU hein, finalement. Donc, j'étais quand même assez attaché. Et pourtant, ce film ne m'intéresse pas du tout. Donc, quelles sont les attentes que j'avais pour le film? C'était vraiment très très bas. Cependant, j'espérais, je ne sais pas si je dois parler au présent ou au passé, peu importe.
On comprend, dans les deux cas, c'est
voilà.
Le passé.
j'espérais, comme tu disais, quelque chose qui se rapproche de Captain America, Soldat de l'hiver, en termes d'action, de combat, d'espionnage, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce Captain America-là. En général, j'aime bien les Marvel qui sortent un peu du MCU. Toi, tu citais Ant-Man. Moi, j'aime beaucoup le premier Ant-Man. J'aime bien les films un peu ce qu'on dit street level, donc les super-héros au niveau de la rue, quoi, ceux qui n'ont pas des pouvoirs cosmiques avec des enjeux qu'il faut sauver l'univers et tout. Je trouve que ça fait du bien au milieu justement de ces autres films-là. Pour le coup, je le trouve assez mal positionné en début de phase. Je veux dire, quitte à ce qu'il soit à la bourre, tu vois, autant le mettre en respiration entre les
Éternels
et puis Doctor Strange et tout ça, où il va y avoir de l'espace et tout ça. Mais bon, voilà. Donc, j'y suis allé avec des attentes vraiment très, très basses, en étant sûr que je ne vais pas aimer. Voilà.
Ah oui, carrément, d'accord.
Ouais, je suis assez. C'est sûr que je vais pas aimer. Donc, ce qui en général est quand même bon signe parce que ça laisse la place d'être agréablement
bien
surpris.
Sûr. C'est ça. Être sûr qu'on va pas aimer, on peut se dire finalement c'était bof, donc super. J'ai passé un bon moment. J'ajouterais peut-être une attente du coup en t'écoutant parler. Effectivement, une attente serait que ça construise le personnage de Black Widow et de Natasha Romanoff, qui a toujours été en personnage secondaire et qui n'a pas une existence, une identité évidemment aussi forte que un Captain America ou un Iron Man, même si cela c'est les plus importants du MCU, mais même par rapport à d'autres, j'aimerais bien que ça la construise un petit peu et que du coup, parce qu'aujourd'hui, si on dit Black Widow, c'est qui ? Tu dis, ah bah c'est la meuf bonne qui a ses tenues en latex et qui aguiche un petit peu les gens parce que c'est une de ses armes d'assassine, tu vois, et d'espionne, mais qui au fond est quand même un petit peu angoissée et qui a un bon fond, tu vois. Et ça tient sur un ticket de métro, c'est un petit peu caricatural. J'exagère un peu, mais pas énormément. Et donc, j'aimerais bien que ça la construise un petit peu plus et que du coup, on sache qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle ait une personnalité un petit peu complexe. Ça me paraît difficile à faire de ce que je sais de la série, parce qu'il y a plusieurs personnages super héroïques qui vont être introduits. Ça m'a l'air d'être plus un film de groupe qu'un film sur un personnage qui serait Black Widow. Enfin, de groupe, pas de groupe, mais de où il y a plusieurs spotlights. Mais bon, je sais pas. On verra.
Puis voilà, le fait aussi, bah justement, le fait d'avoir ce personnage qui normalement n'est plus, hein, n'est plus dans le MCU, qui est décédé, tu te dis, même si le film il cartonne, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Tu penses qu'ils peuvent faire un autre, tu vois, est-ce qu'ils peuvent faire un autre Black Widow, je sais pas du tout, quoi. Bon, mais donc,
disons que si jamais, le truc c'est qu'aucun personnage n'est vraiment mort forcément jusqu'à la fin des temps dans la MCU, donc tu te dis, si ils font un truc dans ce film, enfin ils pourraient, même s'ils le font pas, ils pourraient ensuite à n'importe quel moment dire « Oh, bah, il y a une Black Widow d'une autre timeline qui est presque la même, sauf que elle a pas eu, tu vois, elle s'est pas fait mal en se tapant contre le coin de la table le matin du 12 septembre 2014. Et voilà, mais sinon, c'est la même, tu vois. Donc, enfin bon, je... Bref.
Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, t'as raison, c'est exactement ce qui s'est passé pour Gamora, hein. On va pas se le cacher.
Oui, bah exactement.
Donc, c'est possible, oui.
Oui. Bon, bah écoute, très bien, merci beaucoup pour cette discussion fort intéressante sur l'épisode 5 et sur les attentes pour Black Widow. Du coup, maintenant, j'ai très très hâte et je suis très curieux de notre discussion dans quelques jours pour Black Widow. Là, pour le coup, vu l'établissement des attentes, maintenant, je suis très curieux de savoir ce que tu en auras pensé vraiment. Super, merci beaucoup Johan. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, dis-moi?
Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter à JohanT_, où je parle beaucoup de jeux vidéo et un petit peu de MCU si l'occasion se présente, et aussi et surtout sur ton Discord, hein, où il y a toute une partie publique où vous pouvez venir discuter des dernières émissions de Patrick, et notamment celle de Super Laser Punch. Donc venez avec plaisir.
Tout à fait. Le lien vers ce Discord est sur notepatrick.com, hein, c'est très simple à trouver. Et vous pouvez aussi trouver des liens vers mes autres émissions sur notepatrick.com toujours. Vous avez des liens très simples vers le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, où on parle de tech et de jeux vidéo. Et vous pouvez aussi trouver le lien vers mes comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Donc n'hésitez pas à passer sur notepatrick.com pour avoir tous ces liens. On vous remercie de nous avoir écoutés. On a très très hâte de vous retrouver dans quelques jours pour parler de Black Widow. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.